No.
Non.
Très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je s'en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info. Nous sommes ce soir le jeudi 19 mars. Alors, à l'actu ce soir, nous allons revenir sur les élections en Israël. Nous parlerons d'IVG, nous parlerons des barbares et grâce à ces barbares, ou plutôt à cause de ces barbares, nous ferons un petit peu le tour du monde quand même. Nous parlerons d'agriculture bio et puis aussi des abeilles. Et au milieu de tout ça, nous allons parler ce soir d'une multinationale, c'est une start-up. Nous parlerons d'Uber, et oui, parce qu'elle le mérite bien. Vous verrez, on a plein de trucs à dire dessus.
Alors, on va ouvrir avec ces élections israéliennes. On va redonner les résultats complets qui sont parus ce matin et a priori définitifs. Donc, le gagnant contre toute attente, hein, puisque Benjamin Netanyahou n'était pas donné gagnant ces derniers jours, mais il est arrivé en tête quand même, avec une campagne à l'extrême droite toute. Donc, 30 sièges pour ce parti. 10 de plus que la dernière fois. Le deuxième, c'est la liste l'Union sioniste, donc qui était un parti plutôt centriste, plutôt progressiste, qui retrouve dans lequel on retrouvait hein, les anciens travaillistes, qui étaient vraiment à la rue ces dernières années après de multiples trahisons et qui étaient repartis pour gagner. Ils n'ont pas gagné, donc 24 sièges eux, 3 de plus que la fois d'avant. Ensuite, on a le fameux parti arabe, là, en anglais on dit The John List, le nom officiel. Qui, alors là, a surpris tout le monde en arrivant troisième, donc en progressant, hein, puisqu'ils ont 14 sièges à l'Assemblée, à la Knesset. Ensuite, il y a Yesh Atid, donc un parti israélien centriste et laïque, qui lui a une vision avec un État palestinien à côté d'un État israélien, qui milite pour le mariage civil, voilà, donc parti purement israélien, mais assez progressiste. Eux, ils ont permis du pas mal de sièges, hein, ce parti centriste. Il se retrouve à 11 au lieu de 19. Ensuite, dans la liste, il y a Koulanou. Donc, c'est un autre parti centriste. Hein. C'est les centristes qu'on. Il y a pas mal de partis centristes en Israël. On parle toujours que de l'extrême droite, du Likoud et des autres, mais en fait, il y a pas mal de partis centristes. Donc, lui, enfin, ce parti qui n'existait pas avant, hein, qui est un parti récent, a eu 10 sièges. Donc, voilà. Ensuite, ben là, ça devient moins drôle, puisqu'on a le parti. Alors ensuite, c'est Bayit Yehudi, donc ça veut dire le foyer juif, donc parti religieux à l'extrême droite, donc raciste, homophobe, tout ce qu'on peut imaginer, hein, ouvertement raciste, ouvertement homophobe. Le parti Chasse, autre parti d'extrême droite, mais lui toujours religieux, mais lui du côté séfarade, hein, c'est très communautaire l'extrême droite en Israël. Donc Bayit Yehudi, ils sont passés de 12 à 8, donc ils ont perdu. Le Chasse est passé de 11 à 7, ils ont perdu aussi. Globalement, l'extrême droite a quand même un peu reculé. Ensuite, il y a le judaïsme unifié de la Torah. Autre parti d'extrême droite religieuse, cette fois ultra-orthodoxe. Eux, ils sont passés de 7 à 6. Ils ont perdu un siège. Ensuite, autre parti d'extrême droite religieuse, Israël Beitenu. Donc, Israël, notre maison. Donc, c'est l'extrême droite nationaliste et religieuse, mais concernant plus particulièrement les Israéliens d'origine russe, importés par le célèbre, malheureusement, Avigdor Lieberman. Et puis le dernier parti qui aura des représentants, c'est donc Meretz, dont on avait parlé d'une candidate là qui s'était fait malmener, qui passe de 6 à 4 sièges, donc ils ont perdu des sièges, qui est un parti plutôt socialiste, qui prône deux États, qui est parti sioniste et socialiste. Voilà, alors ça c'est les 10 partis qui ont gagné, hein, des postes, parce qu'il fallait 3,25% des voix. Des voix pour avoir droit à des postes, c'est-à-dire 4 députés, ce qui était le minimum. Mais il y avait plein d'autres partis dont on a assez peu parlé. En tout, il y a eu 4 017 235 bulletins. Donc, on a le parti anti-pornographie, hein, qui voulait défendre les enfants. C'est bizarre d'avoir. Ils ont des partis sur une seule idée. Hein. C'est assez bizarre comme pays quand même. 58 voix, ça représente 0%. Hein, ça rentre pas dans les. Il n'y a pas assez de place derrière la virgule prévue dans les tableaux. Il y a le parti OR, qui est humaniste et sioniste, 0,01%. C'est un parti qui prônait la séparation de l'État et de la religion, ce qui n'est pas porté par tous. Hein. Mais ils n'ont pas eu beaucoup. Il y a un parti autour des questions sociales qui s'appelait Louer avec dignité, donc autour des loyers un peu excessifs, et qui défendait aussi la cause animale, allez comprendre le lien, 0,01% des voix, c'est pas beaucoup. Il y a un parti anticorruption qui, lui, a eu 0,02% des voix. Il y a le parti des hommes divorcés. Non mais, je vous le dis parce que c'est quand même très drôle, il faut faire un peu d'humour dans ce qu'il y a eu info. Ils ont eu 1001 voix, c'est-à-dire 0,03% des sondages. Il y a un parti arabe modéré qui a eu 0,04% des sondages. Le parti des femmes orthodoxes, 1858 voix, c'est-à-dire 0,05%. Le parti du bonheur, 0,06%. J'ai pas fini, il y en a d'autres. Les verts, il y a des écolos en Israël, ils ont 0,08%. C'est quand même horriblement faible. Les Israéliens sont pro-destruction de la nature. De toute façon,
fait, c'est les militants, ils ont voté pour eux, non, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. Ah, quand même, 3118 voix sur les 4 millions d'électeurs. Enfin, de bulletins. Voilà, et tous les petits partis qui n'ont pas gagné, hein, sur les 26, celui qui a fait le plus gros score, qui a obtenu 0,97%, c'est-à-dire 38 624 voix, c'est le parti pour la légalisation du cannabis. C'est énorme. Voilà, c'est bon, il y a des trucs qui font rêver, qui font marrer. Il y en a pas beaucoup dans ce pays qui est quand même pas terrible. Mais voilà, je voulais terminer avec ça, le parti sur la légalisation du cannabis. Pour rappeler maintenant comment ça va se passer, en revenir aux choses un peu sérieuses, le président monsieur Rivlin donc convoque officiellement dimanche, premier jour de la semaine, les partis vainqueurs, c'est-à-dire grosso modo, il demande à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement donc il a 42 jours. Le problème de Netanyahou, c'est que pour avoir la majorité, il lui faut 61 députés et élus, et pour l'instant, il n'en a que 30 dans son parti. Donc, il va s'allier avec ses amis de l'extrême droite, hein, le Chasse, le parti de la Torah unifiée, le Israël Bétenou, tout ça, et ça fait 57 députés. Donc il lui en manque encore 4 pour avoir la majorité et pour pouvoir gouverner. Et les bruits qui courent, c'est qu'il y aurait une tractation avec échange avec le parti Kulanu. Kulanu, donc parti centriste, porté essentiellement par Moshe Kalon, à qui on a promis le ministère des Finances. Donc voilà, il va se compromettre, hein, puisque pour avoir un poste politique, il va s'unir à l'extrême droite. Donc voilà ce qui risque d'arriver la semaine prochaine. Alors bien évidemment, c'est une énorme défaite pour le tout le camp de la paix, tous les progressistes en Israël. Mahmoud Abbas l'a rappelé que ça va être difficile, hein, de rentrer dans une négociation de paix. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou l'avait dit. De toute façon, il était contre un État israélien. Il est allé très très loin. Il voulait développer les colonies encore plus. Donc voilà, grosso modo, à part avoir fait un discours de guerre, de haine et d'exclusion, Benjamin Netanyahou et ses amis de l'extrême droite n'ont rien fait d'autre. Donc c'est quand même un mauvais signal lancé au Palestine et à la communauté internationale qu'ont fait les électeurs israéliens en choisissant, pas tous, hein, la preuve, en choisissant ces gens-là. On rappelle les propos de Lieberman, donc qui va être sûrement au gouvernement aussi. Il a dit sur les Arabes israéliens, il les a menacés de les découper à la hache, de leur découper la tête à la hache s'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ça donne un petit peu l'ambiance pour le futur en Israël.
Alors, on va ce soir parler d'Uber, cette entreprise qui a fait beaucoup parler d'elle dans les médias. Ça dure depuis déjà des mois. Alors, il est vrai que Uber est dans l'actu un peu toutes les semaines. Ça fait des mois que je mets des articles de côté sur cette multinationale et le petit dossier que j'avais sur mon bureau d'ordinateur est devenu un très très gros dossier. Mais c'est vrai que c'est un peu l'univers impitoyable, hein, quand même, Uber, il faut le dire. Alors, ils sont dans l'actu, encore une fois, le groupe est dans dans l'actu cette semaine. Pour vous rappeler un petit peu, hein, c'est une boîte qui a été créée en 2009 à San Francisco. Le produit officiel a été lancé en 2010. Alors, c'est le principe de service de voiture avec chauffeur. Uber sert d'intermédiaire, hein, entre les véhicules de tourisme avec chauffeur, les fameux VTC, et les clients. Uber a développé et gère des applications qui mettent donc en relation les clients et les chauffeurs. Alors actuellement, Uber est présent dans plus de 50 pays, dans plus de 250 villes. Une expansion extrêmement rapide, avec une implantation aussi très rapide sur le marché français. Donc par exemple, ici, en France, Uber propose 5 services différents, donc un service dont on va beaucoup parler ce soir. Il s'agit du service Uber Pop, service qui met en relation des chauffeurs particuliers, occasionnels, avec donc des clients de l'autre côté. Donc ces chauffeurs utilisent leur véhicule personnel. Voilà. Après, Uber a développé tout un tas d'autres services. Au départ, très orienté aussi sur le luxe en France, avec Uber Berlin. Il y a eu aussi des Uber Van. Enfin voilà, il y a des choses qui sont un petit peu différentes avec des chauffeurs professionnels. Mais c'est l'Uber Pop dont on parle beaucoup ces derniers temps, et c'est ce qui les met encore une fois au siège parisien dans le caca. Et ben, c'est encore ce service Uber Pop, puisque lundi, le siège parisien d'Uber France, situé dans le 19e arrondissement, a été perquisitionné sur ordre du parquet de Paris. Alors, il faut savoir que Uber, ils ont plein de soucis, hein, quand même. Donc la justice enquête sur le service Uber Pop, service, hein, qui est interdit depuis le 1er janvier 2015, puisque cette relation entre chauffeurs particuliers et clients particuliers est interdite. La filiale française d'Uber a déjà été condamnée pour pratique commerciale trompeuse le 16 octobre dernier, condamnée à une amende de 100 000 euros Figaro par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir présenté comme du covoiturage cette offre au Uberpop. Donc Uberpop a une stratégie un peu de tout essayer hein, face aux attaques. Il faut savoir que le tribunal l'a également condamné à diffuser sur ses sites internet français un avis rendant compte de sa condamnation, là c'est classique, mais aussi un avis qui doit indiquer le fait que les utilisateurs d'Uberpop risquent une condamnation pénale. Alors c'est vraiment quand même une grosse affaire. Il faut savoir que donc depuis le début de l'année et cette loi Thévenoud, il y a déjà eu plusieurs dizaines de conducteurs, de chauffeurs non professionnels, des chauffeurs d'Uberpop qui ont été interpellés par la police. Alors pour exercice illégal de la profession de taxi, ces chauffeurs encourent une condamnation qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une suspension de 5 ans du permis de conduire et la confiscation de leur véhicule, hein, puisqu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Alors Uber, de son côté, répète que tout va bien. Uber se réfère à une décision, celle du tribunal de commerce de Paris. Alors il faut savoir qu'Uber conteste hein, depuis le départ la loi Thévenoud. C'est une loi qui date donc du 1er octobre 2014. Ce qui est pas mal, c'est que la loi a été promulguée en octobre hein, au journal officiel. Elle a été adoptée définitivement en septembre. Donc pour une fois, c'est allé très très vite. Non, parce que des fois, ça va pas aussi vite. Hein, mais là, ça va pas traîner. Bon, faut dire, vous vous souvenez, hein, il y a eu beaucoup de protestations de la part des professionnels des taxis en France qui ont fait des manifestations, des grèves, pour employer leur terme. Donc voilà, bah, il y a eu quand même beaucoup de pression, de lobby, en France, ça n'a pas marné, on a tout de suite réagi au niveau législatif. Alors la maison mère californienne a déposé deux plaintes contre la France auprès de la Commission européenne afin d'obtenir l'annulation de la loi Thévenoud. Et la filiale française a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l'usage de la géolocalisation et la fixation des prix qui ont été transmises vendredi dernier par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Alors, là, un des gros trucs que Uber attaque, c'est une des mesures de la loi Thévenoud qui interdit de géolocaliser un véhicule. Donc, c'est-à-dire d'informer finalement un client de la disponibilité d'un véhicule. Ça, il n'y a que les taxis qui ont le droit de le faire. C'est un dispositif qui est maintenant réservé aux taxis. La ville de Paris a lancé par exemple une application mobile Paris Taxi qui est censée mettre en relation les taxis parisiens avec les clients en station. C'est-à-dire que on est plutôt quand même du côté des taxis, hein. En France, il faut être assez clair. Pas trop du côté de la VTC, enfin des VTC. L'idée aussi, c'est que les taxis puissent conserver le monopole de la maraude, hein, le principe de pouvoir héler dans la rue un taxi, hein, quelque chose de très parisien. Donc quelque chose voilà aussi de sans réservation. Donc Uber se fait attaquer de ce côté-là et il conteste aussi une autre partie de la loi Thévenoud, c'est ce qui concerne le mode de tarification des VTC, puisque la loi leur impose de pratiquer des prix forfaitaires, c'est-à-dire des prix fixés avant la prise en charge, avant la course. Alors que Uber a mis au point avec ses chauffeurs, enfin pour ses chauffeurs, on sait pas bien comment il faut le dire, un système de prix qui va dépendre de la distance, du temps passé. Et ça peut être un système qui va être propre aux taxis. Donc c'est aussi sur ça que les taxis se sont agacés. Alors pour Uber, hein, c'est des mesures qui portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Hein, c'est pas bien. Mince, il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut. Ils sont attaqués un petit peu de partout hein, sur ces questions. Pour l'instant, on attend, ça devrait être dans les semaines ou dans les mois à venir un petit peu la réponse sur cette question. Je vous le disais, ils sont attaqués un petit peu partout dans le monde, aux Pays-Bas, dans leur ville d'origine, hein, San Francisco, en Scandinavie, en Chine, à New Delhi, après la mise en cause d'un chauffeur d'Uber pour viol. À Séoul, c'est les autorités qui ont déclaré la guerre aux particuliers qui travaillent pour Uber. En décembre, c'est un juge de Madrid qui a interdit le service Uber Pop. En Thaïlande, Uber a été jugé illégal. À Bruxelles, le service Uber a été interdit, ainsi qu'en Allemagne. Donc, voilà, c'est un petit peu un combat partout, à travers le monde, pour Uber, qui, pourtant, on va y revenir plus tard, bah, s'installe et va très très vite dans son implantation.
Ah, c'est à moi ?
Oui.
Ah, nous poursuivons avec une info française, cette fois-ci. C'est une bonne nouvelle. quelque chose qui progresse. C'est au sujet de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Donc les députés ont supprimé en commission, c'était cette nuit, hein, entre hier soir et ce matin, le délai de réflexion de 7 jours imposé aux femmes souhaitant une interruption volontaire de grossesse dans un amendement au projet de loi qui est en cours de discussion, là, le projet de loi sur la santé, le fameux projet qui a mobilisé des riches professionnels de la santé dimanche dernier à Paris. Donc, je vous rappelle les faits. Actuellement, 2 consultations médicales sont obligatoires avant l'IVG, avec un délai de réflexion d'une semaine entre les deux, qui peut être réduit de 48 heures dans le cas d'urgence. Vous savez qu'au bout de 12, enfin, le délai maximal en France est 12 semaines. Donc, si jamais la femme est proche de ces 12 semaines, ils peuvent accélérer. Ce qui est quand même relativement bizarre d'avoir mis une clause telle, voilà, parce que les personnes, une grande partie des personnes qui se rendent pour un IVG ont déjà bien réfléchi, elles n'ont pas besoin de 7 jours supplémentaires forcément, elles peuvent les prendre, mais donc là pour l'instant c'est obligatoire. Donc l'amendement qui a été déposé par la députée socialiste Catherine Coutel proposait donc de supprimer la clause de conscience. Le projet de loi permettait de supprimer ce délai. Ensuite, en plus, Catherine Coutel a proposé aussi de supprimer la fameuse clause de conscience qui permet à ces médecins réactionnaires, souvent pour des raisons religieuses, de ne pas pratiquer l'avortement. Et son argumentaire, qui est assez juste, somme toute, elle repose sur le fait que cette clause de conscience existe dans le code de la santé publique, hein, qui est une clause de conscience générale s'appliquant à tous les actes médicaux, et que rajouter une disposition, avoir une disposition spécifique juste pour l'avortement, c'est quand même pas génial, pas très réglo, un peu particulier. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle avait émis un avis résolument défavorable sur cette suppression de la clause de conscience. Et sa raison, je cite, « Il ne faut pas ranimer de débats éminemment symboliques dans un contexte de tension sur un certain nombre de sujets de société. » Bon, en gros, je m'appelle Marisol Touraine, je suis le degré zéro du courage. L'extrême droite religieuse est présente dans le corps médical. Il ne faut pas l'énerver. Plions-nous devant l'extrême droite religieuse. En gros, c'est ce qu'elle dit, c'est quand même la honte totale. Et Madame Coutel, socialiste elle aussi, a accepté de retirer son amendement. C'est quand même assez triste et décevant, tout ça, ce recul permanent des socialistes, le mariage pour tous qui avait entraîné énormément de débats et une remontée de l'extrême droite religieuse, avant tout chrétienne, mais on rappelle les alliances, hein, des 3 religions monothéistes françaises qui ont fait des manifs, des déclarations communes contre le mariage pour les homos, hein, grosso modo. Là, c'est pareil, hein, clause de conscience, on la laisse pour ces réactionnaires croyants et autres horreurs. C'est juste un recul de plus par manque de courage des élus socialistes.
Alors, on va revenir à Uber et on va parler un petit peu de pratiques douteuses. Parce que vous vous doutez qu'une telle société qui se développe aussi vite, quand même, à quelques casseroles. C'est surtout aussi une bonne partie des articles, hein, quand même, qui traitent de ces casseroles, il faut le dire, à côté des articles échos, où on trouve aussi un certain nombre d'histoires. Alors d'abord, il y a tous ces articles qui s'intéressent à ces partenaires d'Uber. Les partenaires étant qui ? Les chauffeurs, et oui, puisque je vous rappelle, c'est pas des salariés, hein, ceux qui conduisent les bagnoles avec UberPop, ils ont tout plein de statuts, hein, selon les pays. Uber se charge de prélever auprès des clients le prix de la course et en reverse donc 75% aux chauffeurs, un système, hein, qui paraît simple comme ça. Et Uber est dans une pratique aussi très très forte pour encourager les gens à rejoindre cette grande aventure avec eux. Il paraît que c'est le bonheur de travailler avec Uber et non pas pour Uber. Alors aux États-Unis, ils sont évidemment très actifs, hein, dans les bureaux à Uber. Ça cogite du cerveau. Nouveau. Et alors, il crée des campagnes de communication très intéressantes. Une des dernières, elle s'appelle Uber Military. Alors, l'idée, c'est de jouer sur le patriotisme. Ils ont promis l'embauche de 50 000 membres en service, des membres militaires, des vétérans ou épouses de militaires, hein, comme chauffeurs, d'ici 2016. Donc, ils essayent de s'installer aussi, hein, dans la vie au quotidien aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont mis en place ça. Ils ont fait aussi des grandes déclarations pour dire qu'ils allaient embaucher tout plein de femmes d'ici 2020, hein, beaucoup, beaucoup, que ça allait aussi être plus féminin, Uber, que ça allait être classe. Et puis, ils ont des pratiques très intéressantes quand même. Si vous souhaitez travailler, en particulier aux États-Unis, ils vous proposent des prêts à Uber. Alors, quelques articles se sont penchés, hein, sur ces fameux prêts. Beaucoup les rapprochent de ces prêts, ces subprimes, c'est-à-dire finalement de la merde, hein, faut le dire. Mais l'idée, elle est là, elle est que n'importe qui aujourd'hui peut devenir un chauffeur Uber. Hein, il suffit d'avoir une voiture. Ben, vous en avez pas. Uber va vous aider, va donc vous faire un petit prêt. Certes, il est pourri, mais vous pourrez aller travailler sacré paquet d'heures par jour pour aller rembourser votre prêt. Alors, voilà, en plus c'est bien parce que Uber explique qu'il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas de votre situation bancaire, vous l'obtiendrez, votre prêt, hein, donc ça c'est aux États-Unis. Donc d'après Uber, c'est très facile d'obtenir un prêt, c'est très facile de le rembourser, il suffit de beaucoup travailler, hein. Voilà, ça c'est, soyons très clairs. D'autant plus que c'est une somme qui est déduite, hein, de la rémunération des chauffeurs. Donc, ben, quand vous devez avoir votre relevé, vous devez pas avoir grand chose quand même. Si vous êtes sur ce genre de prêt en partenariat avec Uber, il faut quand même beaucoup, beaucoup travailler, hein. Il y a quand même des gens qui se sont intéressés aussi à ces salaires et qui, comme en Belgique, ont créé un site qui s'appelle Uber Salaire. L'idée, c'est de proposer aux chauffeurs d'Uber de calculer leur rémunération et de se rendre compte avec une fois qu'ils ont enlevé leur charge. Voilà, donc c'est un principe tout bête, hein, c'est qu'ils ont mis en place un petit système qui va tout calculer et puis bah, va vous donner un petit peu des résultats à la fin. C'est une assez bonne initiative. L'idée des créateurs de ce site, c'est de se faire prendre conscience peut-être que c'est pas si rentable, même si ça permet évidemment des petits appoints, hein, au niveau financier. C'est quand même beaucoup de boulot quand on y ramène auto-horaire. Donc, ça reste quand même pas la grande affaire, hein, d'être chauffeur pour Uber. Dans les pratiques douteuses, on note aussi la manière dont Uber se comporte avec ses concurrents aux États-Unis. C'était cet été, il y a une société concurrente, VTC Lyft, qui a accusé Uber d'inciter ses chauffeurs à occuper ses lignes téléphoniques et donc à contacter des chauffeurs pour passer des commandes fictives. Évidemment, les commandes étaient annulées par la suite. Alors, Lyft a identifié 5000 annulations provenant de chauffeurs ou salariés directs d'Uber. Alors, Uber, il s'est excusé. C'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est que le groupe n'a pas dit « Ah non, c'est pas nous ». Ils ont dit « Si, si ». Mais quand même, on a des équipes extrêmement déterminées. Donc, en fait, c'est plutôt un salut qui a été fait à cette manière de se comporter. Uber a aussi expliqué qu'en fait, la mission, c'était pas de coincer Lyft et lui faire perdre son temps et du pognon. C'était plutôt de tenter de débaucher les chauffeurs. Hein. C'est toujours un petit peu la méthode très agressive d'Uber. Et puis, il y a eu des polémiques aussi sur les pratiques tarifaires. Par exemple, à Paris, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, dernier, il y a eu pas mal d'informations qui sont remontées, qui ont été rapportées sur le fait que les tarifs avaient été multipliés par 10 pour cette nuit-là. C'est-à-dire que voilà, en même temps, Uber nous parle de prix contrôlés, plus bas que les taxis, c'est plus intéressant. Et puis en même temps, bah, de temps en temps, s'éclate. Là où il y avait eu une grosse polémique et plutôt un gros scandale, c'est lors de la prise d'otage de Sydney. Uber avait multiplié ses tarifs par 4 pour les personnes qui désirait quitter la zone, le quartier. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en danger, bah allez hop, on vous fait payer, on vous sort de là, mais c'est plus cher. Et puis, dans les pratiques aussi un petit peu douteuses qui ont été relevées ces derniers mois, c'est une facilité dans certains pays, c'est aussi arrivé à Paris, que les chauffeurs se permettent de draguer les clientes qui montent à bord. Alors, pas juste quand il est quand la personne est dans la voiture. Ça, on peut penser que de toute façon, avec un taxi, ça peut aussi arriver, c'est que là, en fait, les chauffeurs ont votre numéro de téléphone, puisque ça vous permet à vous de donner une précision sur votre horaire, de votre déplacement, donc d'être en contact avec la personne qui va venir vous chercher pour la course. Sauf qu'il y a eu pas mal d'affaires sur lesquelles les chauffeurs ont été accusés d'avoir harcelé certaines femmes, certaines clientes, puisqu'ils conservent, en fait, les numéros de téléphone des passagers et des passagères. Alors Uber s'est dédouané en disant qu'ils avaient une charte qualité, une charte très importante, et que leurs chauffeurs n'avaient absolument évidemment pas le droit de commettre ce genre d'acte. Voilà, je vous le disais, à New Delhi, un chauffeur était condamné pour agression sur une cliente, sur une jeune femme. Voilà, on peut toujours se dire que ça peut arriver dans les autres sociétés, sauf que Uber est particulièrement confronté à ces problèmes et ces agressions, beaucoup plus que les autres sociétés a priori.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit. Là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Alors, cette rubrique que nous appelons les barbares autour de la peine de mort va effectivement nous permettre de faire un petit tour du monde, puisqu'il y a une pratique qui est quand même malheureusement un peu répandue. Alors, on va commencer par l'Indonésie. Parce que c'est au cœur de l'actualité, l'Indonésie. Il y a plein d'étrangers dans le couloir de la mort aux États-Unis, en Indonésie. Il y a eu pas mal de réactions, pas mal de mobilisations des différents gouvernements, notamment Brésil, France et Australie. Et on a appris de Yusuf Kalla, qui est donc le vice-président indonésien, que pour l'instant, les étrangers condamnés à mort pour trafic de drogue en Indonésie ne devraient pas être exécutés avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'il y a des recours judiciaires en cours. Et il nous explique bien le délai. Ce délai prend en compte le temps que la totalité des recours judiciaires soit épuisée. Et il précise toujours, ce Yusuf Kalla, donc vice-président, je cite, « Nous entendrons et prendrons toujours en compte les opinions non seulement de l'Australie, mais aussi de la France et du Brésil. » L'Australie vient en premier parce qu'ils ont pas mal d'affaires en cours, enfin au moins deux. La France a un ressortissant, Serge Atlaoui, qui a été condamné à mort pour trafic de drogue. L'Indonésie, il rigole pas sur le trafic de drogue, donc c'est peine de mort à chaque fois. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que le président Joko Widodo, qui avait l'air cool quand il a été élu, parce qu'il ne se présentait pas toujours en costard-cravate, hein, on l'a vu plein de fois avec des t-shirts de Napalm Death ou de choses comme ça, et il est inflexible. Et pourtant, puisqu'il était fan de métal, Napalm Death, à travers son chanteur Barney, plus connu de son vrai nom, Mark Greenway, a contacté le président Joko Widodo en lui disant que c'est pas très cool la peine de mort, et que eux ils étaient contre, et qu'ils militaient contre, et qu'ils voulaient qu'il y ait quelque chose de fait notamment pour les étrangers condamnés à mort. Eh ben, il a beau être fan de Napalm Death, Joko Widodo, il a pas du tout écouté ce groupe de métal qu'on classerait politiquement à l'extrême gauche. Donc voilà, ça a pas gagné, ni les pressions diplomatiques non plus. Bref, la situation reste bloquée pour l'instant en Indonésie. Donc les recours judiciaires vont avoir lieu, mais il y a quand même assez peu d'espoir, même s'il y a des négociations en cours. En tout cas, au pire, les quelques 4 ou 5 ressortissants qui risquent d'être tués dans les mois qui viennent, ressortissants étrangers, eux, bon, leur peine sera peut-être changée. Par contre, pour les autres, bien évidemment, malheureusement, ça ne changera rien. On part en Arabie Saoudite, où un Syrien qui a été condamné à mort, là aussi, pour trafic de drogue, a été décapité au sabre, c'est la pratique en Arabie Saoudite. Hier, donc mercredi, c'est Firas Mohamed Alcor, donc qui avait été reconnu pour avoir introduit dans le royaume une grande quantité d'amphétamine. Donc, pour refaire le point sur l'Arabie Saoudite, 49, le nombre d'exécutions aujourd'hui, on est mi-mars, 49. C'est la moitié de ce qu'ils ont fait l'année dernière et on est seulement au mois de mars. Donc l'Arabie Saoudite est partie pour battre son propre record d'assassinats judiciaires. On part au Pakistan et c'est la mauvaise nouvelle hein, du Pakistan. Grosso modo, la modification de l'attitude du Pakistan date du raid des talibans là, contre l'école de Peshawar où les talibans ont tué 150 personnes. C'était le 16 décembre dernier. Suite à ça, le pays a décidé de lever partiellement le moratoire sur la peine de mort. Donc il y avait un moratoire, c'est-à-dire qu'ils n'en pratiquaient plus, mais ce n'était pas retiré du code pénal, pour les affaires de terrorisme. Et puis, depuis la semaine dernière, ils ont décidé de lever le moratoire pour toutes les affaires. Donc, le retour de la peine de mort au Pakistan et... C'est reparti, je vais dire comme en 40, mais c'était peut-être pas en 40 que c'était le mieux au Pakistan. En tout cas, hier mercredi, 9 condamnés à mort ont été pendus, malgré la mobilisation internationale. Donc voilà, alors faut savoir quand même que si le Pakistan repart à assassiner tous ces condamnés à mort, et ben ça va faire du chiffre, parce qu'il y a 8000 condamnés à mort dans les prisons du Pakistan, dont 1000 ont épuisé tous les recours. Donc du coup, là, on peut imaginer que dans les semaines qui viennent, ils tuent les 1000. Ce qui va leur faire gagner le pompon, hein, ouais, pas loin de la Chine, mais c'est quand même pas glorieux. En plus, il faut savoir que le Pakistan a passé des accords, notamment avec l'Union européenne. Ils ont le fameux statut GSP+, hein, qui leur permet notamment de vendre du textile sans taxe ou quasiment sans taxe. Oui, c'est sans taxe. Et dans ce statut, hein, il y a l'obligation de ne pas pratiquer la peine de mort. Donc on va voir jusqu'où ira l'Union européenne. Enfin, qu'on connaît l'Union européenne et son attitude, par exemple, vis-à-vis d'Israël, qui ne respecte pas du tout les règles d'association avec l'Union européenne, on imagine qu'il risque de ne pas faire grand-chose non plus sur le Pakistan. Et pourtant, ça aurait été un très bon moyen de pression, puisque le Pakistan a gagné, a priori, en moyenne, 1 milliard de plus l'année dernière sur ses ventes en Europe, grâce à ce statut, qu'il ne mérite donc plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le Pakistan. On poursuit avec les États-Unis d'Amérique et le Missouri, où un nouveau condamné à mort a été tué par injection létale, comme ils disent. C'était hier, ou avant-hier, 21h21, heure locale, 8 minutes pour mourir, hein, le temps entre l'injection du produit et la déclaration de la mort de Cecil Clayton, c'est un monsieur, 74 ans. Il y avait eu moult recours. Hein. Juste une heure avant l'exécution, ils ont eu la réponse des 3 derniers recours en appel pour demander à ce que l'exécution soit suspendue pour des raisons de méthode, cette fameuse injection létale qui marche pas toujours très bien. Et en plus, parce que Cecil Clayton a des gros problèmes de troubles mentaux et de troubles intellectuels. Faut dire que pour raconter l'histoire de ce Clayton, qui a donc tué un policier, en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'en 1972, il était parfaitement normal, il travaillait dans une scierie, et là, il y a un gros accident, c'est-à-dire il se prend un morceau de bois qui rentre dans son cerveau. Donc, ils enlèvent 1/5 du lobe frontal. Il a perdu 1/5 de ce bout de cerveau. Depuis, comportement schizophrénique, des dépressions, des hallucinations, effectivement, en enlevant un bout de cerveau pour enlever le morceau de bois, ça l'a rendu globalement un petit peu fou, en tout cas difficilement gérable et a priori relativement irresponsable d'une partie de ses actes. Alors, ça lui est arrivé, il avait la trentaine, et là il a 74 ans. Il a pas tué tout de suite. Il lui fallait un climat calme. Il lui faut plein de choses. Or, quand il y a l'altercation avec ce policier, et il le tue parce qu'il était armé, parce qu'on est aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà. On notera que normalement aux États-Unis, on n'a pas le droit de tuer les attardés mentaux, les malades mentaux. ben, ils respectent jamais leurs propres règles, hein, donc puisqu'ils l'ont tué. Ses avocats avaient, il y a eu plein de médecins, d'experts psychologues qui ont témoigné et qui ont dit qu'il était normalement pas pénalement responsable. Hein, et ben, ça a pas suffi. Et faut dire que quand on entend Jay Nixon, qui est le gouverneur, je vais citer ce qu'il a dit quelques minutes après la mort, après l'assassinat de Cecil Clayton par son employé. Il a dit, alors que la sentence de son meurtrier est exécutée ce soir, je demande aux habitants du Missouri d'honorer le policier Christopher Castetter qui a donné sa vie au service de notre État. Et oui, effectivement, il était du côté du policier qui méritait, j'imagine, pas de mourir non plus. Mais voilà, il n'a jamais pris en compte l'état mental. Ça n'intéressait pas. Il était dans le œil pour œil, dent pour dent. On a tué, on tue. Voilà pour le Missouri. Passons en Égypte. Hein, je veux dire, on allait se balader un petit peu, on fait du tourisme. En Égypte, donc là, c'est les tribunaux égyptiens qui ont condamné à mort lundi dernier 22 dirigeants et cadres des Frères musulmans. Il y avait une autre affaire, 8 militants de la confrérie ont été aussi condamnés à mort quelques jours avant pour formation de cellules terroristes. Grosso modo, depuis l'arrivée de l'ex-chef de l'armée et actuel président dictateur très autoritaire Abdel Fattah al-Sissi, qui a donc viré Manu Militari Mohamed Morsi, et ben la répression tombe comme ça sur les partisans, les dirigeants, les sympathisants des Frères musulmans. Il y a au moins 1400 morts aujourd'hui, 15 000 personnes ont été arrêtées, des condamnations à mort tombent dans des procès où ils sont condamnés collectivement, sans intervention d'avocat, ça prend quelques minutes, enfin tout sauf de la justice. On en est là. Mohamed Morsi lui-même encourt la peine de mort dans 4 affaires. Il ne s'est pas encore arrivé devant la justice, il est pour l'instant juste en prison. Voilà. Mais c'est à ce même Abdel Fattah al-Sissi que Dassault, Hollande font des courbettes parce qu'il vient d'acheter des rafales. Donc voilà, on peut être ami avec le pire dictateur, avec le pire assassin du monde, parce que c'est quand même du coup un des pires assassins sur la planète aujourd'hui, le dirigeant égyptien. Mais tant quand il faut faire du business, c'est le plus important. Alors, on va venir ici, pas loin de chez nous, en France. Du coup, ça sera moins exotique, hein, ça fait moins tour du monde. Mais rappelez que la semaine dernière, la Marine Le Pen, telle la digne fille de son petit facho de papa, a annoncé qu'elle était pour la peine de mort. Je cite, « Je pense que la disparition de la peine de mort a eu comme effet, en réalité, d'effondrer l'ensemble des échelles des peines et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des délits ou même des crimes que je considère comme très graves et qui sont condamnés à des peines indignes au regard de la souffrance qu'ils ont pu créer chez la victime. » Alors, bien évidemment, c'est dans le discours des fachos traditionnels. La souffrance d'une victime et des... Enfin, pas de la victime, parce que c'est bon, voilà. Elle dit n'importe quoi. Il n'y a pas de souffrance chez la victime, puisque souvent, c'est des actes qui... c'est un assassinat, des choses comme ça. La victime, elle est déjà morte, donc elle ne souffre plus. Mais en tout cas, de l'entourage, il n'y a rien qui peut lutter contre la souffrance, de toute façon, de l'entourage. Et la peine de mort n'y concourt pas. Et dans ce qu'elle dit dans l'échelle des peines, c'est la théorie d'extrême droite et de droite traditionnelle, c'est de dire que ça empêche les gens de tuer, le fait que savoir qu'on risque la peine de mort si on fait des choses horribles. Bien évidemment, il suffit de regarder les États-Unis d'Amérique pour comprendre que ça marche pas, hein, où ils ont un taux d'homicide nettement supérieur à la France, et pourtant eux, ceux qui tuent, ils risquent la peine de mort, alors que chez nous, non. Hein, donc bien évidemment, c'est un faux problème. Elle a rappelé qu'elle ferait un référendum où elle poserait 2 questions, et vous allez voir que ça va être sympa. Les Français auront à choisir, je cite, entre le rétablissement de la peine de mort et la mise en œuvre de la perpétuité réelle. Bon, ben j'irai pour référendum, ça c'est sûr. Mais la perpétuité réelle, hein, on rappelle que pour elle, il n'y a pas de réhabilitation. La prison doit être un lieu où on souffre, on ne doit pas être heureux, on doit rester jusqu'à la fin de ses jours et on doit, ce qu'elle a dit, mourir en prison. C'est-à-dire que c'est une peine de mort qui est différente, en fait, hein, la perpétuité. C'est une peine de mort sur le long terme avec de la souffrance horrible. Parce que quand on sait qu'on n'a pas de perspective de sortir, ça s'accompagne forcément de la souffrance. Donc elle est dans cet acte-là, naturellement. Voilà. Je vais terminer quand même dans cette rubrique par une bonne nouvelle, parce que c'était pas facile de trouver une bonne nouvelle. C'est au sujet de la Côte d'Ivoire et du Suriname. C'est l'ONU qui se félicite de l'abolition de... c'est en cours, l'abolition est en cours de disparition, enfin la peine de mort est en cours de disparition au Suriname et en Côte d'Ivoire. Le Suriname a un moratoire depuis 1927, mais là ils sont rentrés dans une phase, ils vont supprimer définitivement la peine de mort, et la Côte d'Ivoire a aboli la peine de mort dans la Constitution, mais pas dans le code pénal, et là il y a une modification en cours du code pénal pour supprimer la peine de mort en Côte d'Ivoire. Voilà deux bonnes nouvelles sur le front de l'assassinat judiciaire.
Alors on poursuit avec Uber. On va reparler un petit peu chiffres. Uber, je vous le disais au départ, se développe très très rapidement. Pour exemple, en janvier, grâce à la célèbre banque d'affaires Goldman Sachs, Uber a récolté 1,6 milliard de dollars supplémentaires dans ses caisses. Depuis une dizaine de mois, 12 mois à peu près, c'est 4 milliards de dollars qui ont été récoltés par Uber, donc voilà, ça, il y a un peu une assise quand même, une sérénité. Google a investi dans Uber en août 2013. Donc l'idée, c'est d'aller très très vite pour se déployer à l'international, d'écraser très très vite la concurrence, de faire face aux attaques des municipalités et des États très très vite. Et donc pour ça, la multinationale est prête à tout. Alors dans un certain nombre de pays, elle s'est mise à casser les prix pour gagner des parts de marché, puisque c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus concurrentiels que la France, les États-Unis ou l'Allemagne, en particulier en Asie ou en Amérique du Sud. Donc bah là, c'est vraiment, on est sur une certaine agressivité hein, quand même au niveau commercial. Alors, les ambitions de Uber ne se limitent pas au transport hein, des passagers. La multinationale voit bien, bien plus grand. L'idée, c'est de s'installer dans les villes, d'être une logistique urbaine. J'ai lu quelque part pour les citer. Alors Uber a mis en place un centre spécialisé qui s'appelle Uber Garage. Hein, voilà, l'idée c'est d'avoir des gens qui réfléchissent, qui inventent des trucs. C'est comme ça que ces derniers mois, Uber a mis en place des expériences, parfois juste pour quelques jours, juste pour voir. Hein. Donc il y a quand même un peu la trésorerie pour pouvoir s'amuser à faire ce genre de choses. En avril 2014, pratiquement il y a un an, Uber a lancé un service de coursier à New York, puisque Uber est très 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 intéressé par la livraison, comme Google, comme Amazon, hein, qui sont sur les rangs. Alors, Monsieur Kalachnik, qui est l'un des fondateurs d'Uber, nous expliquait en décembre 2013, quand vous pouvez livrer une voiture en 5 minutes, il y a beaucoup de choses que vous pouvez livrer en 5 minutes. C'est pas faux. Non, c'est pas faux.
Faut quand même reconnaître. En même temps, est-ce qu'on livre une voiture en 5 minutes ?
Bah, son idée, c'est que normalement, quand tu commandes, la voiture, elle est censée être là. Mais c'est surtout que je te rappelle que l'application, et c'est ça qui est attaqué, te permet, toi, de savoir si tu as des voitures pas trop loin. Ouais. Aussi. Et oui, tout ça, c'est bien pensé quand même. Hein. Pour aller plus loin, Uber a débauché Tom Fallows. C'était le responsable de Google Express. Hein. Donc, comme ça, entre multinationales, on se pique du personnel sur le même secteur de développement. Uber à côté lance tout un tas d'activités aussi hein, pour essayer de se placer un peu comme essentiel. Donc par exemple, il y a un nouveau truc qui s'appelle Uber for Business, une solution comme on dit quand on parle bien marketing, qui permet aux entreprises de payer les déplacements professionnels des employés, des salariés. C'est déjà disponible aux États-Unis, ça arrive ici en France. C'est TF1 Production qui a servi d'entreprise cobaye pour lancer ce service, cette solution, excusez-moi. Donc voilà, c'est l'idée vraiment de s'implanter à la fois chez le particulier, mais aussi dans les entreprises. Alors avec le soutien financier dont je vous ai parlé tout à l'heure, Uber a les ressources financières suffisantes pour mener la bataille vraiment sur tous les fronts. C'est un développement à la Google, vraiment, en plus rapide presque. Un développement aussi à la Facebook, c'est-à-dire au niveau de la capitalisation, des rentrées d'argent. On est aussi vraiment sur un développement de Facebook, donc ça va très très vite et Uber va certainement aller très très loin. Pour que ça se casse la gueule, ben, va falloir un truc. Il faudrait que de partout un peu dans le monde, ben, les collectivités, les États, les gouvernements se retournent contre Uber en étant comme en Europe, hein, derrière les taxis, et donc casse le marché de la VTC. Bon, pour l'instant, pour l'instant, Uber s'implante, développe des marchés, développe du pognon. Voilà, c'est après, encore une fois, des drôles de services qui se mettent en place, et vraiment avec des phénomènes de multinationales et d'entreprises, du capitalisme bien pensé, moi je vous le dis, et du libéralisme bien pensé aussi.
Alors on va terminer ce Canu Info en parlant un petit peu d'agriculture.
Oh, mais tu sais que j'aurais pu te faire une transition, parce que Monsieur Kalaknik, eh ben, dans sa vision, les automobilistes vont peu à peu abandonner leur voiture. C'est là où il veut se placer, c'est-à-dire qu'il veut remplacer la voiture personnelle. C'est pas de l'écologie, non.
Non, mais pas
c'est du capitalisme.
Oui. Oui, donc on va parler un petit peu d'agriculture et le revirement de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Donc hier soir, je vous rappelle les faits. En fait, bizarrement, alors que personne ne s'y attendait, le 7 mars, le ministère de l'Agriculture annonce la suppression des aides aux agriculteurs bio. Un truc, personne s'y attendait. Donc, manifestation, etc. Et donc, hier, il décide de faire machine arrière et même d'aller plus loin, puisqu'il rajoute, ce matin, je crois, ou hier soir, la mise en place d'une aide de maintien supplémentaire. Donc, c'est sûr, maintenant, tous ceux qui auraient dû avoir leur aide auront leur aide. Donc, c'est une enveloppe qui vient de l'Union européenne, 103 millions d'euros que l'État répartit. Plus 14 millions d'euros mis par le gouvernement français, en plus, là, qu'il a rajouté au dernier moment, je pense, pour se faire pardonner. En tout cas, on le perçoit comme ça. Donc, je vous rappelle comment ça se passe, ces aides à l'agriculture biologique. Donc, c'est des aides essentiellement à la conversion et au maintien, mais beaucoup plus à la conversion, qui viennent de la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui soutiennent les agriculteurs qui s'engagent donc à développer des exploitations biologiques. Elles sont gérées en fait par les États, donc au niveau national, et c'est pour ça que c'est l'État qui dit oui ou non, et qui donne cette enveloppe. Ça va changer dans les années qui viennent, puisque normalement à partir de l'année prochaine, ça sera géré au niveau régional. Ces aides. Alors, grosso modo, les paysans conventionnels qui passent au bio reçoivent des aides à la conversion pendant 5 ans et ensuite des aides au maintien pendant 5 nouvelles années. Alors, c'est pour pallier les écarts économiques qui sont de moins en moins vrais, voire souvent c'est l'inverse maintenant par rapport à l'agriculture productiviste en tout cas. Pour pallier les accidents météorologiques ou climatiques, dont effectivement l'agriculture bio souffre un petit peu plus. Comme le dit le responsable de la Fédération régionale des agriculteurs biologiques de Midi-Pyrénées, c'est aussi et surtout pour payer, rétribuer l'intérêt général de la protection de l'environnement et de la création d'emplois liés à cette agriculture, qui crée beaucoup plus d'emplois que l'agriculture productiviste et qui respecte globalement l'environnement. Donc voilà, ça, ils ont sauvé la filière, qui a du mal. L'État, dans sa pseudo-transition énergétique, avait dit qu'on voulait être 10% d'agriculteurs bio, on doit être à 3% en France. La volonté, elle manque, mais quand on voit le principal syndicat patronal, la FNSEA, être anti-bio en permanence et pro-productiviste, effectivement, ça risque pas d'avancer dans les jours et les années qui viennent. Et puis, toujours autour de l'agriculture, même si c'est indirect, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui l'interdiction, à compter de janvier prochain, des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes, ces fameux produits qui tuent les abeilles. Vous vous rappelez, beaucoup d'études. Alors c'est un peu compliqué pour tuer les abeilles. Faut savoir que d'abord c'est une vraie réalité, cette disparition d'abeilles. Ça concerne tout le monde et partout. Il y a plein de suspicions. Il y a eu des études qui ont démontré comment les abeilles disparaissaient. Elles sont tuées directement ou indirectement par ces produits, notamment indirectement, c'est-à-dire qu'elles perdent la notion d'orientation. Du coup, quand elles partent butinées, elles sont plus capables de revenir à la ruche et donc elles meurent. Et puis elles sont aussi plus sensibles à certaines maladies, puisqu'il y a quand même des maladies qui tuent les abeilles, des virus, des choses comme ça. Et ces produits-là les rendent plus sensibles, donc elles peuvent moins lutter. Et il y a tout ça, c'est bien sûr nourri par de multiples études scientifiques, on fait que ces néonicotinoïdes sont sur la sellette depuis un certain nombre d'années. Il y a eu au niveau de la Commission européenne une restriction de certains de ces produits, mais trois substances sont encore... autorisés, voire plus, dans ces cinq molécules qui sont encore autorisées en France. Donc là, l'idée, c'est de les supprimer définitivement. Alors bien évidemment, Ségolène Royal, que certains qualifient de ministre de l'écologie, je n'ai jamais compris pourquoi, c'était juste un titre, mais elle n'est tout sauf écolo, puisqu'elle était contre cette décision. Oh bah mince! Elle veut tuer les abeilles? Bah oui, en fait, c'est plus compliqué que ça, mais grosso modo, le gouvernement était totalement défavorable, donc là, c'est le gouvernement, parce que ils disent, le cadre européen ne permet pas une interdiction stricte. Notamment l'ancienne ministre de l'écologie, Delphine Bateau, qui était porteur, avec son collègue Bérard Bapt, du projet, dit, bah non, faut faire comme avec les OGM, comme avec le maïs Monsanto, là, OGM, il faut aller jusqu'au bout, dire on est contre et il faut se battre pour cette interdiction. Donc voilà, c'est ce qui a été décidé. Ce qu'on notera quand même dans les réactions du Parti Socialiste, notamment de la rapporteure Geneviève Paillard, elle s'est montrée hostile à une interdiction et je cite, elle dit, c'est par souci d'efficacité parce qu'elle a peur, elle craint que ces produits restent utilisés dans le cadre de dérogations en l'absence d'alternatives chimiques. Et ben on lui rappellera que ces produits, on peut s'en passer, qu'il n'y a pas besoin d'alternatives chimiques. Si elle avait été un peu au courant de ce qui se passait dans l'agriculture biologique, elle verrait qu'il n'y a pas besoin d'alternatives chimiques. Effectivement, si on remplace ces produits qui tuent les abeilles et qui sont très nocifs pour l'environnement, pour nous, pour les animaux, par d'autres produits qui seront aussi nocifs, on n'aura pas gagné. Mais l'idée, c'est de les remplacer par rien du tout. Et il y a pas mal de méthodes, on va dire mécaniques, en agriculture bio notamment, c'est-à-dire qu'on empêche les insectes d'atteindre les plantes en mettant des voiles de forçage, en mettant des voiles qui protègent mécaniquement ce qu'on fait pousser, sans avoir besoin de produits chimiques. Mais Geneviève Paillard, Ségolène Royal et tous ces gens-là ne doivent pas avoir mis beaucoup de pieds dans un champ depuis très longtemps, et en tout cas ne doivent pas participer à de la culture, ça c'est sûr. Voilà, pour ce Canu Info, on a fait beaucoup de Uber et on a fait plein d'autres choses. Nous allons faire un petit agenda. Si j'ai rien oublié, contrairement à la semaine dernière où on avait oublié une info dans l'agenda, il y a d'abord ce soir, ça a déjà commencé mais vous pouvez toujours y aller si vous êtes pas loin, l'atelier des canulars, c'est 91 rue Montesquieu, accueille une rencontre en soutien à la création d'un camp anti-nucléaire à Bure, c'est dans la Meuse Bure, l'idée c'est de faire une ZAD grosso modo. Vous savez qu'à Bure il y avait soi-disant un laboratoire expérimental pour enfuir les déchets, puis ça s'est transformé en CIGEO, c'est-à-dire un lieu d'enfouissement définitif des déchets radioactifs dans une zone qui est tout sauf stable géologiquement. Donc voilà, il faut lutter contre ça, et il y a des individus qui ont envie de créer une ZAD à Bure. On leur souhaite bien du courage, on les soutient aussi. Et donc rendez-vous aujourd'hui, maintenant. Ça a commencé à 19h, mais vous pouvez y aller à l'atelier des canulars, dans le 7e. Ensuite, on va aller à samedi, il y a une soirée de soutien à Radio Canu. Alors, c'est pas nous qui l'organisons, mais c'est des copains de la CNT de l'Ain qui ont décidé que Radio Canu devait continuer à émettre dans le budget et ailleurs. Et donc, ils ont organisé une soirée de soutien où les gains nous seront reversés pour le fameux achat de notre local. Donc, il y a projection, débat, bouffe, buvette, concert, voilà, tout ça, c'est au centre social de Hauteville, donc dans l'Ain. À partir de 18h30, et c'est donc vendredi 20 mars, c'est-à-dire demain. Un peu plus loin, alors à partir de demain s'organise pendant 8 jours, ça s'appelle le festival Expulsion Immédiate, pour lutter contre les dommages sur les expulsions liées notamment à Gérard Collomb, à toute la politique de la ville, etc., et à la politique du pays. Il y aura plein de choses, des activités, des concerts, des spectacles, des projections, des débats. Je vous laisse aller voir sur Rebellion. Certaines infos seront données que le jour même, parce que c'est pas toujours facile de faire des choses qui font pas plaisir aux politiques et qui sont à la marge de la limite de la légalité. Donc je vous laisse aller sur le site de Rebellion pour avoir plus d'infos sur ce festival expulsions immédiates pour lutter contre les expulsions, bien évidemment. Et puis, samedi, à 16h, dans la série des rencontres et des débats à la librairie Terre des Livres, hein, je le dis chaque semaine, parce que chaque semaine, il y a au moins une rencontre avec un écrivain. Donc là, c'est avec Pierre Thiesset, autour d'un recueil de témoignages. Une cinquantaine de personnes sont venues, ont donné leur témoignage à Pierre Thiesset. Vivre la simplicité volontaire. Donc, grosso modo, on va parler de décroissance. Donc c'est à la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, dans le 7e, samedi à 16h. Et ben moi je crois que j'ai tout dit.
Eh ben nous allons vous laisser pour ce soir, on vous retrouvera la semaine prochaine, 19h-20h tous les jeudis. On va vous laisser évidemment avec d'autres émissions sur Radio Canu, ça ne s'arrête jamais, c'est ça, puisque même quand il n'y a pas d'émission, il y a les bandes continues, mais ce soir, il y a bien une émission.
Papillon ou la petite cuillère.
Et ça, on voit, ça s'approche.
Non, c'est ça, alors, c'est papillon ou la petite cuillère? C'est papillon ce soir, donc l'émission anticarcérale faite à Radio Duo et que Radio Canu rediffuse. Ça devrait commencer dans 1 minute 20 normalement, si la pendule non atomique de Radio Canu est à l'heure. Bye bye.
Ciao.
Tapez sur les ouvriers, tapez sur leurs frères, ils s'en iront à la ville, tralalalalère. Tapez sur les ouvriers, tapez sur leurs frères.